Eugène Sue, romancier, dandy et sociologue, par Jules Chancel. Le chirurgien Jean-Joseph Sue était le dernier représentant d'une famille de médecins célèbre depuis 3 générations. Aussi, quand le 26 janvier 1804, il eut naquit un fils, le père décida, selon la tradition de l'Ancien Régime, que celui-ci serait chirurgien comme lui. Les relations de ce père étaient étendues puisqu'au baptême de son fils signèrent en qualité de témoin Joséphine et Eugène de Beauharnais. Malheureusement, le jeune Marie-Joseph montra dès ses plus tendres années qu'il était assez peu disposé à suivre la carrière assignée par son père. Au lycée Bourbon, il se fit d'assez piètres études et se signala surtout par son indiscipline. Quand ses maîtres lui en faisaient des reproches, il répondait « Ce n'est pas de ma faute, c'est celle de ma nourrice ». Qui était donc votre nourrice? Une chèvre. Déjà l'écrivain apparaissait dans cette réponse humoristique. Malgré ses études peu sérieuses et qui se signalèrent surtout par des soupers fins et des soirées passées à dévaliser, en compagnie de joyeux lurons, la cave paternelle, sans égard même pour le crâne de Mirabeau qui était contenu dans un bocal à esprit de vin, ce diable d'Eugène, grâce à la protection paternelle, finit tout de même par décrocher le titre de sous-aide chirurgien. C'est avec ce grade que son père le fit attacher à l'hôpital de Toulon. Dans cette ville, l'aide-chirurgien, avec son inséparable ami de forge, s'occupa beaucoup plus des artistes de théâtre que de ses malades. À la suite de je ne sais quel scandale, le directeur du théâtre fut même obligé de lui interdire l'entrée des coulisses. « J'y entrerai quand même, » décrit-il à l'enragé. « De quelle façon ? Comme auteur. » À cet effet, il composa, en 48 heures, un à-propos sur le sacre de Charles X, qui, en raison de son actualité brûlante, fut représenté dans les 8 jours. Ainsi gagna-t-il son premier pari. Le père de Gensu était influent. Aussi avait-il pu obtenir l'embarquement de son diable de fils comme aide sur un navire de la marine royale qui partait pour les Antilles. Eugène fut obligé de s'incliner devant cette volonté, et il partit, ce qui lui donna l'occasion d'assister en 1828, sur le Breslau, à la bataille de Navarin. Il voyagea ainsi jusqu'au moment où il hérita de son grand-père. Il était riche. Rien, dès lors, ne put l'empêcher de donner sa démission et de venir s'installer à Paris où il se mit à faire de la peinture sous la conduite de Théodore Gudin, le peintre de marine. Il se meubla un bel atelier qui lui servit surtout à mystifier ses contemporains car son ami le plus intime était à ce moment le fameux Romieux, grand maître en la matière. Parmi ses mystifications, il en est une qui est restée célèbre. C'est celle qui consistait à aller demander chaque matin à un infortuné concierge une mèche de ses cheveux. Et ce fut ainsi d'ailleurs que le nom de M. Pipelet fut immortalisé dans les mystères de Paris. La persévérance n'était pas la qualité dominante de Eugène Sue dans sa jeunesse. Aussi, au bout d'un an ou deux, abandonna-t-il la peinture pour écrire des vaudevilles. Et en 1830, il publiait son premier roman, Kernok le pirate, bientôt suivi de la salamandre, la cucaracha, plic et ploc. Son intention était de créer un genre alors inconnu, celui du roman maritime, et cette innovation remporta tout de suite un certain succès, mais la richesse vint arrêter ce début de travail foudroyant. Le père de Gensu était mort à son tour, en lui laissant 1 million de fortune, somme qui avait le don de mettre en fureur Balzac, outré qu'un écrivain pût jouir d'un tel trésor. Il faut avouer que si Eugène Sue était riche, il n'eut jamais rien de l'avare, ni du thésauriseur, et tout de suite se montra prodigue et dédaigneux de l'argent, comme il le sera toute sa vie. Dans son appartement de la rue de la Ferme des Mathurins, il accumula les meubles et les bibelots, s'entoura de nombreux domestiques. On cita bien vite la correction et le luxe de ses attelages. Aussi, en très peu de temps, fut-il classé parmi la jeunesse dorée de l'époque comme un dandy parfait, et les salons les plus fermés du faubourg Saint-Germain s'ouvrirent devant lui. Eugène Sue était trop intelligent pour se contenter longtemps de cette gloire trop facile. Il rêvait davantage et reprit sa plume d'écrivain, en même temps qu'il entreprenait des voyages d'exploration à travers les quartiers de Paris, qui étaient alors bien différents les uns des autres et dont chacun constituait presque une ville distincte. Les salons littéraires venaient de succéder aux salons si fermés de la noblesse ou de la restauration. On causait littérature chez Mme Dagout et de la Bourdonnais. La duchesse de Rosan, Mme de Lagrange, organisait des lectures ou des concerts. Enfin, la chose imprimée prenait une importance nouvelle, car les livres et journaux étaient rares, et une nouveauté suffisait à assurer la réputation d'un écrivain. Il fut donc facile à Eugène Sue de prendre rang dans cette brillante phalange de littérateurs et d'artistes, parmi lesquels nous citerons Berryer, Salmandy, Liszt, Sainte-Beuve, etc. Grâce à ces puissantes protections, Eugène Sue fut admis dans l'intimité de Chateaubriand et pénétra dans les salons si fermés de l'ambassade d'Autriche. Ces victoires étaient un véritable triomphe pour un modeste primitif qui s'appelait simplement M. Sue. M. Sue, c'était décidément un nom peu reluisant. Aussi, celui qui le portait résolut de l'entourer d'un lustre plus éclatant et reprenant son travail, il se mit, avec une abondance terrible, à produire une série d'œuvres d'un romantisme échevelé, selon la mode lancée alors par George Sand. Il dépassa bientôt son modèle, grâce à son imagination débordante, et raconta avec brio l'aventure d'un beau pirate escaladant le mur d'un couvent, ou bien celle du bandit à Targul ou de Kernok le pirate. Ses premiers essais de romans d'aventure séduisirent infiniment le public, surtout que leur intérêt épisodique s'y doublait d'un certain cynisme qui parut alors tout à fait nouveau et piquant. Ce fut la plus brillante période de Eugène Sue. On rencontrait partout ce grand gaillard aux larges épaules et aux admirables favoris qui incarnait de façon parfaite le type encore inédit en 1835 du sportsman et du romancier mondain. Les fêtes qu'il donnait dans sa maison de la Pépinière, entourée d'un véritable parc, étaient légendaires. Tout le monde voulut connaître sa chambre à coucher, bleu de ciel, et son salon rocaille. C'est dans ce décor prodigieux qu'il donna des déjeuners à l'anglaise à Lord Seymour, au comte d'Orsay et au prince de la Moscova. Il est sportsman accompli et Alfred de Dreux a laissé de lui un très beau portrait et le montrant sur son cheval de chasse, Champagne. Il fait courir et possède deux équipages de chasse à cour, l'un pour le lièvre, l'autre pour le chevreuil. Il apprend la boxe et a été admis au Jockey Club dès la fondation du club en 1834. 15 ans plus tard, le comité de ce club acceptera avec joie sa démission, heureux d'être délivré du cauchemar de voir figurer sur son annuaire le nom du Jacobin qu'il était devenu. Ce fut dans son roman d'Arthur qu'il commença à montrer ses tendances avancées, mais les mystères de Paris le classèrent parmi les écrivains à scandale. Comment naquirent ces fameux mystères ? L'histoire en est assez piquante. Un éditeur avait apporté à Eugène Sue le roman d'un auteur anglais qui peignait les mœurs de la population londonienne. « C'est une idée admirable, » s'écria Eugène Sue. « Je vais en faire autant pour Paris. » Et aussitôt, sous des déguisements variés, il se mit à fréquenter les quartiers populeux et malfamés de la capitale. Ainsi donna-t-il jour à ces types devenus classiques du Chourineur, du prince Rodolphe et aussi de la douce fleur de Marie. Selon son habitude, il avait commencé son livre au hasard, sans savoir où il allait. Mais dès les premiers feuilletons, parus dans les débats, le succès s'affirma prodigieux. Dans tous les mondes, depuis ses belles lectrices jusqu'aux gens du peuple, tous lisaient les mystères. Dans les cafés, les cabinets de lecture, on s'arrachait les débats dès le matin et on louait les numéros jusqu'à 10 sous. On s'occupa de ce livre jusqu'à la tribune de la chambre où M. Chapuis, Mont-Laville, l'attaqua comme immoral. Céro, la Goualeuse, Rigolle-Boche, Pipelet, le maître d'école, furent mis en tête de pipe et en bonshomme de pain d'épices. Enfin, Victor, considérant, écrivit un jour, dans la démocratie, que l'auteur avait entrepris une grande œuvre, celle de peindre les souffrances et les aspirations des pauvres et des travailleurs. Cette phrase fut pour Eugène Sue la formule qui devait le guider désormais. Ce qu'il avait commencé involontairement, il le continua en marchant dans la direction qui venait de lui être tracée, mais cette conversion aux idées avancées ne l'empêcha aucunement de continuer ses prodigalités, au point qu'un beau jour, il se trouva presque ruiné. Alors, ne voulant pas mener à Paris une existence diminuée, il quitta brusquement la capitale et se réfugia en pleine campagne de Sologne, où il se mit à réfléchir. Deux voies s'ouvraient devant lui, ou bien vivre tranquillement en petit rentier. C'était impossible à cet homme, habitué à dépenser de l'argent à l'appel, ou bien travailler avec acharnement pour refaire sa fortune. Et il travailla. Le succès du Juif errant, au Constitutionnel, égala celui des mystères dans les débats. Il fit des incursions dans l'histoire avec Lautréamont, Jean Cavalier, le marquis de Létorrière. Lors, de nouveau, afflue dans ses caisses et aussitôt, voilà notre homme grisé de son succès et semant cet or avec d'autant plus de facilité qu'il le fabriquait lui-même et qu'il lui semblait inépuisable. Il transforma sa petite propriété, acheta des chevaux, des chiens et mena l'existence paisible mais fastueuse du gentilhomme campagnard. Il travaillait le matin avec cette rapidité qui le caractérisait et parcourait les routes l'après-midi dans son tilbury bien attelé. Il invitait à des repas fantastiques ses fermiers mélusés par le mélange de grandeur et de simplicité qui constituait la manière spéciale de Gensu. « Il nous serre la main, » disait l'un d'eux, « mais pour cela il met toujours des gants jaunes. » Cependant, les idées libérales commençaient à se faire jour. On était à la veille du mouvement social de 1848. Le dandy, le favori des salons du faubourg Saint-Germain, renia alors brusquement tout ce passé, rompit avec ses relations mondaines et publia de pamphlets retentissants. Le républicain des campagnes et le berger de Caravan. Ces brûlots portèrent leurs fruits, puisque, sans même qu'il ait eu à faire acte de candidat, Eugène Sue fut élu représentant de la Seine à l'Assemblée législative du 28 avril 1850. Le député écrivain se signala comme l'un des plus violents protestataires contre le coup d'État du 2 décembre. « Il faut faire arrêter Eugène Sue, » conseillait Persigny au président durant la nuit historique. « Jamais de la vie, » répondit celui-ci, « je préfère qu'il vienne à mes balles. » Eugène Sue, prenant au sérieux son rôle de politicien avancé, vint de lui-même se constituer prisonnier, et on fut alors bien obligé de l'exiler en Savoie. Cet exil, qu'il supposait devoir être très court, se prolongea jusqu'à sa mort, et la période d'exaltation passée parut très lourde à cet ancien dandy. Il regrettait encore plus son boulevard, ses succès de salon, sa gloire littéraire, que sa carrière politique, mais on doit convenir qu'il se montra toujours bon et secourable pour les malheureux qui trouvèrent chez lui bon accueil et aide efficace. Il était heureux quand il recevait des visites de ses anciens amis, parmi lesquels il faut citer Félix Pillat, littérateur comme lui, mais révolutionnaire beaucoup plus farouche, qui fut en partie responsable de sa conversion aux idées avancées. Eugène Sue mourut assez tristement dans la solitude en 1857, après une assez courte maladie. Il était âgé de 53 ans. La critique fut dure pour cet écrivain, dont le grand tort fut surtout d'être trop abondant et quelquefois inconsidéré. Déjà, les triomphes qui saluaient ses œuvres s'estompaient, et dans ses articles nécrologiques, il fut traité d'écrivain sans style et de politicien déplorable. En dépit de ses critiques, il n'en reste pas moins un auteur fécond, à l'imagination débordante et un grand cœur dans le privé. De bien des grands hommes, on ne pourrait pas encore en dire autant. C'était Eugène Sue, romancier, dandy et sociologue, par Jules Chancel.